Philippe Forni, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur général de CAM Gestion. On va revenir avec vous, bien sûr, sur les marchés financiers, sur les perspectives, sur ces marchés. Il semble qu'en ce moment, on retrouve, hein, bien entendu, les mêmes inquiétudes que les semaines précédentes, voire que les mois précédents. Questions liées aux dettes souveraines, à la situation de la Grèce dans la zone euro et de l'attitude peut-être aussi des pays face à ce problème grec. Comment vous envisagez les choses en tant qu'investisseur?
Je pense que la question est difficile parce qu'effectivement le monde est fortement choqué par tout ce qui se passe. Aujourd'hui, comme investisseurs, nous considérons que les choses vont aller en s'améliorant. Donc peut-être nous faisons preuve d'un excès d'optimisme, on verra. On considère par exemple que la principale difficulté est d'ordre politique en Europe, puisqu'il faut effectivement traiter le problème de la Grèce et que tout le monde sait à peu près comment il va être traité. Après, c'est la mise en œuvre qui est difficile. Aujourd'hui, quand on regarde la cotation des titres grecs sur le marché, on voit que ça cote entre 40 et 50% grand maximum. Donc ça veut dire que la décote réelle que donne le marché à ces titres, aujourd'hui, c'est 50%. Or, le plan du 21 juillet prévoyait une décote de l'ordre de 20-21%. Donc on voit qu'on n'est pas complètement calé et on voit qu'on va se caler. Quand on parle aujourd'hui de recapitalisation du système bancaire, on voit que les choses progressent. Il y a quelques semaines en arrière, on ne pouvait pas en parler. Donc on voit qu'aujourd'hui les politiques avancent et pour nous la situation se décante favorablement et c'est ce qui permettra certainement un rebond des marchés, au moins ponctuel.
De votre point de vue, c'est vraiment ces aspects-là, finalement, de politique, de gouvernance de la zone euro, en quelque sorte, de réaction des gouvernants, effectivement, dans cette zone pour trouver un nouveau plan, puisque là, on parle bien de nouvelles mesures, pour une nouvelle sortie de crise.
Il nous semble qu'il y a plusieurs choses à réaliser simultanément. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier la toile de fond qui est le problème de la croissance. On va y revenir. Mais la première chose peut-être qu'il faut régler, c'est effectivement de circonscrire l'incendie sur la Grèce. La Grèce, en termes de poids économique, c'est peu de choses dans la zone Euroland. La Grèce, en termes de dette détenue par les établissements de la zone, les établissements bancaires de la zone, c'est également relativement peu de choses comparé effectivement à leurs résultats annuels, par exemple. Donc on peut trouver une solution. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que si on ne trouve pas cette solution, on va avoir une vraie contagion. On a déjà eu des tentatives de contagion, notamment sur l'Italie ou sur d'autres pays. Donc il est important de trouver une solution et nous, on pense encore une fois que cette solution s'approche très rapidement. Ensuite, il est important de circonscrire tout risque de contagion, et notamment sur l'Italie. Et donc on pense que la Banque Centrale Européenne, mais surtout le Fonds de Stabilisation Européen Financier, vont être activés, hein. Alors après, on peut débattre de savoir s'il faut donner un effet de levier ou pas. Je pense que ce sont des modalités qui vont après intervenir vraisemblablement, mais de façon à stopper l'hémorragie ou la crainte majeure qu'on peut avoir sur l'Italie et dans une moindre mesure sur l'Espagne. Moi, je constate simplement qu'on vient de dégrader chez Moody's la note de l'Espagne, donc c'est la deuxième dégradation, puisque Standard & Poor's l'avait déjà dégradée, et que malgré cela, on a quand même des taux aujourd'hui qui sont relativement sages et qui ne se dégradent plus. Alors bien sûr, il y a des achats de la Banque centrale, mais je pense que les choses sont réellement en train de changer. Donc après, on va traiter les autres problèmes, qui sont des problèmes beaucoup plus classiques, évidemment, qui vont revenir sur le devant de la scène pour les investisseurs, qui seront par exemple les problèmes du niveau de la croissance, du risque d'éventuelle récession.
Alors là, du côté de la Banque Centrale Européenne, hein, on a décidé de maintenir pour la dernière réunion réalisée par Jean-Claude Trichet, le président de la BCE, les taux d'intérêt. Donc certains espéraient peut-être une baisse de ces taux compte tenu justement de ces inquiétudes et de la situation. Est-ce que ça change quelque chose
Je pense que le niveau des taux d'intérêt ne changerait pas grand-chose. Je pense que c'est le problème du signal qu'on envoie ou qu'on n'envoie pas. Alors, en l'occurrence, on ne l'a pas envoyé. La vraie difficulté est qu'on va changer de président, effectivement, de la Banque Centrale Européenne dans très peu de temps et que, il eût été certainement préférable que ce signal de baisse des taux, s'il avait pu être envoyé, le soit par M. Trichet. Parce que M. Draghi est italien, hein, et qu'on pourrait dire après qu'effectivement, c'est encore une fois peut-être les Italiens qui laissent dériver les autorités centrales européennes, etc. Donc, c'est peut-être une erreur tactique. Néanmoins, cette erreur si c'est une erreur, elle peut se concevoir et se comprendre, car on constate quand même que dans la zone Euroland, l'inflation, hein, aujourd'hui, qui n'est bien sûr pas la préoccupation première, mais l'inflation est revenue sur un niveau de l'ordre de 3%. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est en train de diminuer très fortement. Et donc si on se rappelle quand même le principe fondateur de la Banque Centrale Européenne qui est de contrôler l'inflation, on comprend mieux pourquoi elle a peut-être agi dans ce sens-là.
Alors, on parlait de croissance, c'est bien entendu l'autre inquiétude. Alors, le pire scénario, c'est un retour en récession, ce que pour l'instant peu d'investisseurs envisagent. C'est plutôt un ralentissement assez fort, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou dans la zone euro. Ça, c'est pas vraiment encourageant. C'est vrai qu'on a des perspectives sur les prochains mois qui sont pas. On n'a pas encore de reprise, en tout cas.
Alors c'est vrai qu'on a des perspectives qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus moroses des deux côtés de l'Atlantique. Néanmoins, on n'a pas eu l'effondrement escompté ou prédit par certains durant l'été aux États-Unis, même si effectivement les chiffres globalement ne sont pas bons. En Europe, on a quand même effectivement une diminution sensible de l'activité également, y compris d'ailleurs en Allemagne. Allemagne. Pour l'instant, on table, nous, sur une croissance qui va tourner petitement autour de 1%, ce qui est quand même très, très peu épais et donc qui laisse une place pour un risque au moins de récession dite technique, c'est-à-dire un trimestre de récession, par exemple, qu'on ne peut absolument plus écarter aujourd'hui. Néanmoins, nous, on considère qu'on est en train de reconstruire quelque chose, notamment dans la zone eurolande, qui devrait favoriser la croissance future, mais il est vraisemblable qu'on va avoir devant nous au moins 2 ou 3 années de croissance excessivement faible.
En termes d'évaluation des marchés, on sent bien que dans cette période, c'est compliqué compte tenu des éléments qu'on a évoqués ensemble, les situations spéciales ou exceptionnelles de crainte sur ces marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés actions, pour vous, comment ils se présentent aujourd'hui compte tenu de cette pression en tout cas?
Alors, je crois que tout le raisonnement autour des valorisations des marchés dans un contexte de krach comme on l'a traversé, évidemment, n'a pas une grande signification. Quand on regardera ça avec le recul, on se dira, bah, effectivement, certains marchés sont pas chers, ou certaines valeurs n'étaient pas chères. Mais pour autant, les marchés ne raisonnent pas comme ça. Le sentiment que j'ai, c'est que depuis quelques jours, on se repose peut-être des questions plus fondamentales sur la réalité de la cherté de certaines valeurs. On voit, alors bien sûr, aujourd'hui, on voit bien sûr les valeurs bancaires caracoler en tête dès qu'on a un ballon d'oxygène qui réapparaît, mais on voit également d'autres secteurs plus cycliques qui avaient beaucoup souffert, effectivement, qui reprennent des couleurs. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont complètement réglées. Nous, on reste quand même très prudents, par exemple, sur la dimension des cycliques. Alors évidemment, elles ne sont certainement pas très chères, mais la vraie question, c'est qu'il vaut mieux les acheter en bas de cycle. Et la question, c'est est-ce qu'on est vraiment en bas du cycle? Donc il faut quand même se poser cette interrogation-là. Donc nous, on préfère toujours des valeurs plus de valeurs de croissance avec une visibilité et notamment réorienter vers les zones de croissance qui existent encore, même si elles ont diminué légèrement, comme par exemple les zones émergentes.
Là aussi, hein, on se pose des questions sur ces zones émergentes,
absolument.
Bien entendu, avec l'impact finalement pour ces pays qui avaient leur propre croissance de ce qui se passe dans la zone euro, de ce qui se passe aux États-Unis. On pense bien sûr à la Chine qui freine un petit peu effectivement sa croissance.
Oui, je crois qu'on a raison de se poser cette question. Parce qu'évidemment, ces pays vont subir le contre-coup du ralentissement mondial des pays développés. Pour autant, ce sont des pays qui sont en train d'accélérer dans leur croissance par la consommation intérieure. Alors, cette consommation reste encore relativement limitée, mais en tout cas, on est sur une pente qui est plutôt ascendante. Et ça nous laisse entrevoir quand même plutôt une croissance qui sera de toute façon plus favorable que celle des pays développés. Alors, il y aura d'autres difficultés qui vont apparaître ou qui ont déjà apparu, comme par exemple les problèmes d'inflation et donc de réglage de l'inflation par les autorités monétaires. Mais ça nous laisse quand même présager plutôt une zone de croissance plus fertile.
En conclusion, justement, pour l'investisseur, on est quasiment obligé de distinguer l'investisseur qui est déjà investi,
Oui.
voire pleinement investi, de celui qui aurait du cash aujourd'hui. Comment ça va effectivement pour lui se distinguer sur ses investissements? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Celui qui a du cash aujourd'hui pourrait investir?
Alors, celui qui a du cash aujourd'hui, d'abord, il doit conserver une part de cash, parce que je pense qu'on n'est pas complètement arrivé au bout de nos peines, et que bien évidemment, il faut rester prudent. La conjoncture qu'on annonce est quand même une conjoncture faible. Donc, il y aura des opportunités. Pour autant, moi, je pense qu'il y a des opportunités d'ores et déjà dans certaines valeurs. On citait quelques exemples tout à l'heure qui peuvent être mises à profit, ou certains secteurs. On pense par exemple au secteur des convertibles qu'on aime bien, puisque c'est quand même un monde un peu plus protégé que le monde des actions en direct. Donc, nous, on pense qu'il y a des choses à commencer à regarder. Alors, évidemment, quand on est déjà investi, on subit ce qui vient de se passer, et je doute fort qu'on ait vraiment envie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Pourtant, on le regrettera peut-être à terme. Mais c'est vrai qu'on a quand même perdu plus de 20%, donc au bas mot. Hein, et donc effectivement, c'est un peu compliqué d'en remettre.
Merci Philippe Forni d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes donc directeur général de CAM Gestion.
Merci.